Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
h 05 ici à Washington, 18h50 en universel. Et merci de nous rejoindre sur la Voix de l'Amérique dans votre libre antenne, à votre avis. Alexandrine Foin-Lognon à ce micro. La finale de la Coupe du Monde féminine opposera dimanche l'Espagne à l'Angleterre à Sydney. Et cette 9e édition du Mondial féminin a connu la participation de 4 formations africaines. Le Maroc, l'Afrique du Sud, le Nigeria et la Zambie. 3 d'entre elles ont pu atteindre la 8e de finale avant d'être éliminées. Comment avez-vous trouvé la prestation des équipes africaines dans cette compétition? Nous avons en ligne pour ce débat depuis le Maroc, Eliamidi Bahia. Bonsoir et bienvenue.
Bonsoir, merci pour l'invitation.
Merci d'avoir accepté de nous rejoindre. Vous êtes la vice-présidente de la Ligue nationale de football féminin et responsable de la section de football féminin au sein de l'Association des Forces armées royales au Maroc. Avec moi en studio, mon collègue Yacouba Ouidraogo, monsieur sport de la maison. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Alexandrine, bonsoir à tous.
Et vous pouvez également participer à ce débat. Laissez-nous vos commentaires et vos contacts. Vous pouvez aussi enregistrer vos réactions sur notre numéro WhatsApp, +1 202 297 60 ou 89. Pour planter le décor, Yacouba, vous avez suivi les matchs de cette compétition, sinon tous les matchs de cette compétition, d'une manière générale. Comment avez-vous trouvé cette édition qui prend fin dimanche?
Écoutez, je pense que d'ores et déjà, sur le plan déjà organisationnel, il faut dire que c'est une compétition réussie, en attendant bien sûr le match de classement demain et la finale dimanche. Et sur le plan purement technique, sur le terrain, on a vu de braves joueuses de football. J'avoue que personnellement, je ne m'attendais pas à voir le niveau monter d'un cran par rapport à ce qu'on a vu à Paris en France, disons, en 2019, ou encore au Canada en 2015. Et donc, je pourrais dire que le football féminin, pour ce qu'on a vu en tout cas durant ce mondial-là, est sur la voie de son développement, comme voulu par le président de la FIFA, qui annonce aussi des chiffres records. Donc, déjà avant dimanche, on parle de 570 millions de dollars déjà engrangés par cette compétition 2023. Et donc, la FIFA le dit haut et clair. Il n'y a pas eu de perte et donc elle est plutôt dans les bénéfices. Et puis en termes d'engouement, on va se rendre compte que la FIFA, toujours selon ses chiffres, annonce quand même 2 milliards de téléspectateurs dans le monde et 2 millions environ de spectateurs dans
donc
les stades.
Et donc, les gens disent que les gens s'intéressent moins au sport féminin.
Non, je pense que de plus en plus, les gens suivent le football féminin parce que, comme ils le disent, il y a plus d'intensité que chez les hommes et c'est beaucoup plus agréable à regarder, bien sûr, que le football des hommes où il y a beaucoup de calculs.
Et l'une des équipes africaines qui ont brillé pendant ce mondial, c'est bien le Maroc. Eliamidi, comment les Marocains ont vécu cette compétition?
Eh bien, les Marocains étaient vraiment très ravis de voir une équipe marocaine qualifiée pour la première fois, une équipe arabe, participer à une Coupe du Monde. Tout le monde était ravi de voir et de suivre de près les matchs de l'équipe nationale. Ils les ont remerciés vraiment pour leur courage. Ils les ont salués pour nous. C'est une inspiration, c'est une fierté pour le pays et pour eux-mêmes la diaspora marocaine. Le Maroc, l'équipe nationale, la participation était en elle-même, une fierté pour nous tous.
Pas trop de déception pour l'élimination du Maroc?
Enfin, c'est sûr que des deux, on espérait mieux, on espérait plus, mais déjà la participation et la qualification pour le deuxième tour est un exploit. Déjà pour nous, aujourd'hui, la première équipe et la première participation, et arriver à ce niveau-là, c'est un exploit pour le Maroc.
Jean-Louis, depuis Kigali, nous dit que le domaine du foot est un domaine complexe. Il n'y a plus de petite équipe, selon lui. Observez juste le nombre de Coupes du Monde détenues par l'équipe féminine des États-Unis, tandis que pour l'équipe des hommes du même pays, la tâche semble plus ardue. Alors, Jean-Louis nous dit, revenons à notre question sur le parcours des équipes africaines à ce mondial. Elles n'ont pas démérité et l'investissement massif pour le cas spécifique du Maroc donne de bons résultats à ce mondial pour les dames, ainsi qu'au dernier mondial pour les hommes au Qatar, le Nigeria. Il a joué de beaux matchs ainsi que l'Afrique du Sud. Il pense qu'une montée en puissance des équipes africaines et de meilleurs résultats à court terme, la prochaine Coupe du Monde ou dans 8 ans. C'est-à-dire qu'on aura de meilleures prestations, les équipes africaines auront de meilleures prestations pour le prochain mondial féminin.
Ben écoutez, à condition bien sûr de continuer de travailler sur le football féminin, la CAF en est consciente et donc l'organisation africaine hein, du football africain, disons, en est consciente, elle y travaille. On a des pays comme le Maroc qui sont sur la bonne voie, il y a le Nigeria qui est sur la voie depuis très longtemps mais qui connaît toujours des difficultés. Il y a des pays comme le Burkina Faso par exemple qui se sont qualifiés hein, pour les premières CAN et qui l'ont joué au Maroc. Et donc c'est dire que de plus en plus, il y a des équipes nationale féminine dans les différents pays, ça c'est déjà bon. Ce qu'il reste à faire justement, c'est d'avoir des championnats aussi organisés, comme cela est le cas bien sûr au Maroc. La vice-présidente de la Ligue pourra nous en dire peut-être davantage, mais je pense qu'il faut aller surtout vers la professionnalisation du football féminin sur le continent, parce que de plus en plus, en fait, depuis jusqu'ici en tout cas, ce sont des filles qui sont colportées comme ça, ça et là, dans les quartiers, parce qu'elles vivent dans les clubs où elles n'ont presque rien. Et donc, partir de rien pour devenir quelqu'un dans le football aujourd'hui, c'est très compliqué. Il faut aller vers la professionnalisation, il faut avoir des championnats aussi professionnels, bien organisés, comme les championnats masculins. Et je pense que, quoi qu'on dise, c'est le football, c'est le jeu. Et dans 8 ans, l'Afrique pourrait mieux s'en sortir hein, par rapport à ce qu'on voit jusqu'à aujourd'hui.
Des leçons à tirer, elle a dit, des leçons à tirer de cette compétition pour l'avenir du football féminin du côté du Maroc.
Bien sûr, je voulais d'abord parler de notre première participation à la Coupe d'Afrique qui s'est déroulée, qui a été organisée au Maroc. Et c'est là qu'il y a eu ce déclic. C'est-à-dire, c'est là qu'on a fait, qu'on a vu surgir cet engouement, qui s'est traduit bien sûr par une présence massive des spectateurs sur le terrain, par une attirance d'un grand nombre de joueuses, des jeunes filles de tout âge qui voulaient s'inscrire dans tous les clubs et associations. Pour cela, le problème, c'est que moi, quand je vois cet engouement et cette attirance de ce championnat, de ces événements, ces derniers événements, ça ne fait que excusez-moi le terme, ça ne fait que du bien. Pour cela, l'équipe marocaine a démarré son mondial, bien sûr, avec une large base de spectateurs qui ont suivi depuis la Coupe d'Afrique. Le premier match, bien sûr, c'était une déception. Les Marocains furent déçus, mais après le premier match gagné et le deuxième, ça a été un changement complet, et tout le monde était ravi par le jeu pratiqué par l'équipe nationale, notamment le match contre la Colombie qui nous a permis de se qualifier. Donc tout ça, c'est un ensemble d'événements qui se sont succédés entre déception, entre victoire et tout ça, nous a fait que a poussé les gens à réfléchir, à se dire que c'est un début. On est en début du développement de foot féminin, donc pour nous c'est un acquis. On ne peut pas demander plus que ça, dans la mesure où on vient de commencer. Ça fait pas longtemps qu'on a commencé. C'est-à-dire,
je vois Yacouba hocher la tête tout au long des commentaires de elle y avait dit en commentaire.
Justement, je pense que ce qui est fascinant avec l'équipe du Maroc, c'est que c'est une jeune équipe, hein, comme elle le dit si bien. Le déclic est vraiment venu de la CAN, jouée à domicile, qu'elles ont perdu malheureusement en finale face à l'Afrique du Sud. Mais en fait, ce qui est saisissant, c'est que cette équipe du Maroc-là part pour sa première Coupe du Monde. Personne ne s'attend bien sûr à ce qu'elle fasse un exploit devant l'Allemagne. Et effectivement, elle est corrigée par l'Allemagne 6-0. C'est le premier match d'une Coupe du Monde. Et donc, j'imagine à quel point les garçons de Reynald Pedro, je parle du coach bien sûr français de l'équipe du Maroc, et leurs filles sont touchées. Mais les filles trouvent le moyen de se remobiliser, d'avoir les ressources, d'aller chercher dans leur trip pour se ressaisir hein, durant le deuxième match face à la Corée du Sud. Victoire étiquée 1-0, c'est largement suffisant pour se relancer dans la compétition, pour avoir de l'espoir. Et comme elle le dit, le match le plus important, c'était le match contre la Colombie. C'est une grande équipe, hein, la Colombie. Et les Marocaines réussissent à s'imposer encore 1-0. Et elles écartent du même coup l'Allemagne, qui n'a même pas pu sortir de la phase de poule. Et donc, c'est dire à quel point cette victoire, bien sûr, de l'équipe marocaine, dans cette qualification de l'équipe marocaine pour les huitièmes de finale, est assez saisissante. Et je pense qu'elle est assez symptomatique hein, de ce qu'on devait faire sur le continent en termes de football féminin. Les dames, elles ne baissent pas les bras.
Ouais. Les dames ne baissent pas les bras. Nous avons nos auditeurs en ligne. Et on va revenir à vous juste après, Lamidia. Bonjour, bonjour Christian, vous êtes à votre avis sur VOA Afrique.
Oui, bonsoir Afrique, bonsoir à tous les auditeurs de...
On vous reçoit très très bien. Que pensez-vous de la prestation des équipes africaines dans ce Coupe du Monde féminine?
En tout cas, je pense que c'était une participation encourageante hein, au regard justement des réalités du football féminin du continent africain, qui est vraiment caractérisé par un certain nombre d'éléments. Notamment, il y a un manque criant d'un championnat féminin organisé de manière régulière dans chaque pays ou encore dans chaque ville. Et au-delà de ça, il y a encore la subvention étatique qui est pratiquement modique par rapport à celle de leurs collègues hommes. Parce que vous êtes en train de savoir que le football masculin bénéficie quand même de la subvention étatique d'un regard de l'État, contrairement à ceux de femmes. Et il y a encore un autre élément, c'est justement l'irrégularité ou encore le manque d'engouement des compétitions féminines au niveau de la CAF. On ne sent pas vraiment un engouement au niveau de la CAF par rapport à ces genres de compétitions. Et le tout dernier élément, je dirais que c'est aussi les traitements. Le traitement est vraiment moins onéreux. Et il y a aussi, et tout cela crée un manque de motivation. Et il y a aussi cet élément, en tout cas, sur les préjugés qu'eux-mêmes, je dirais qu'elles-mêmes, les filles développent sur le football ou encore sur le sport. Elles se disent, voilà, c'est une chose qui revient justement aux hommes.
Est-ce vraiment les cas? On va écouter Bachia El Diavidi. Est-ce vraiment le cas? Est-ce que les filles se disent que c'est un sport qui est réservé aux hommes, donc ne font pas d'efforts pour être dans des compétitions?
Alors là, je suis pas d'accord. Je suis vraiment, je suis pas d'accord parce que le défi des filles, c'est que elles sont là, elles jouent au football. Techniquement, elles sont comme les garçons.
Oui, tu parlais de l'intensité tout à l'heure, c'est Yacouba.
Ouais.
Et même quand tu vois le nombre de spectateurs pour les matchs de la Coupe du Monde féminine, les matchs féminins, il y a beaucoup plus d'hommes qui regardent, c'est-à-dire, on regarde ça avec plaisir. Moi, ma famille, mon mari, mon fils, quand ils regardaient presque jamais les matchs de garçons, mais là, ça, c'était un plaisir. Pourquoi? Parce que on voit qu'il n'y avait pas de simulation, il y avait du spectacle, mais vraiment c'est agréable de regarder un match de football féminin de ce niveau-là, mais avec cette élégance, avec cette classe, et tout ça, ça ne peut être que la fille ou la joueuse ne peut être que fière de ça. Je suis sur le terrain comme toi le garçon, mais avec mes qualités, ma féminité et tout qui sont gardées. Donc non, moi je ne, elles n'ont plus cette mentalité de se dire le foot est voué pour les garçons ou pas pour les filles. Quand tu vois maintenant que les filles, même les petites filles, les jeunes filles maintenant sur les plages, dans les rues, elles jouent avec les garçons, ce n'est plus comme avant. Ça y est, cette idée est déjà partie. Pour nous, on a commencé un peu tard, c'est vrai, mais en peu de temps, cette idée a disparu. Enfin, moi, je parle du Maroc.
On va parler tout à l'heure des programmes mis en place, il y en a, au niveau du Maroc, pour encourager la participation ou bien susciter l'intérêt des jeunes filles pour le football. On va en parler tout à l'heure, mais on va marquer une toute petite pause et on revient juste après. Alors, il n'y aura pas de pause, on va juste poursuivre. Il n'y aura pas de mi-temps, justement, comme on le dit en football. Vous êtes dans votre avis sur VOA Afrique. Nous revenons sur la prestation des équipes africaines à la Coupe du Monde féminine, dont la finale est prévue pour dimanche. Et nous avons, pour ce débat, nous avons en ligne, depuis le Maroc, El Yamidi Bahia, qui est la vice-présidente de la Ligue nationale de football féminin, avec moi au studio Yacouba Ouedraogo.
Est-ce qu'il y a des pays africains qui ont particulièrement encouragé la croissance du football féminin? On a parlé de l'exemple du Maroc, mais est-ce qu'il y en a d'autres?
Non, il y a l'exemple du Maroc, il y a des pays comme le Sénégal, où ça joue au football féminin, même si le Sénégal ne s'est pas qualifié pour le mondial cette année, ça s'est joué vraiment à rien. Il y a le Cameroun qui est longtemps dans ce football féminin-là. Il y a des pays émergents, le Burkina Faso, le Togo, et plus en Afrique centrale, la Tanzanie justement, qui fait beaucoup dans le football féminin, comme dans le football masculin d'ailleurs. Donc il y a des pays émergents, mais je pense que la volonté seule ne suffit pas. Il faut y mettre les moyens. Et les femmes, généralement, ce qu'elles demandent, c'est pas exactement ce qu'on donne aux hommes. C'est
notre
le minimum.
Auditeur en parlait tout à l'heure.
Justement. Et quand on regarde, par exemple, ce qui s'est passé avec l'équipe sud-africaine durant la préparation de ce mondial, elle devait jouer un match de préparation, justement, et donc un match amical contre le Botswana. Et le stade, c'est un stade pourri, excusez-moi du terme, qu'on leur a accordé. Les filles ont refusé de jouer. Et qu'est-ce que la fédération a fait? Elle a juste colmaté des jeunes filles de 15-16 ans pour aller jouer ce match-là. Des stades, ce n'est pas ce qui manque en Afrique du Sud. Si dans un pays, il y a les infrastructures nécessaires, et on n'est pas capable d'attribuer un stade digne de ce nom à des joueuses qui se préparent pour représenter leur pays à une Coupe du Monde. Ça veut dire qu'il y a de la volonté qui manque au-delà des moyens. Pour ce qui est des moyens financiers, la FIFA essaie de faire ce qu'elle peut. Cette année, par exemple, elle a décidé de verser directement ces primes-là aux joueuses dans leur compte,
ça
30 000 dollars. Justement. Mais même cela, il y a des fédérations comme la Fédération sud-africaine, toujours, qui a refusé de donner quelque chose après. Comme quoi, la FIFA vous verse quelque chose, on n'a pas besoin d'ajouter quoi que ce soit. Le Nigeria, les filles réclament leurs primes qui datent de 2021. Et elles n'ont pas reçu leur prime, mais elles ont dû mettre leurs revendications entre parenthèses pour représenter le pays et revenir après l'élimination pour réclamer leur prime. Et donc, c'est dire à quel point ces dames-là sont dévouées pour représenter leur pays, pour pratiquer leur sport. Par-delà tout, c'est, en fait, le football, c'est une question de passion et donc c'est ça qui les mène. Et je pense qu'il faut les accompagner dans cela. Et on verra que dans pas mal de pays, les gens vont laisser leurs filles jouer au football parce qu'il y a des résistances dans les familles. En fait, déjà, elles doivent braver d'abord peut-être le manque de volonté de leurs parents. Et si en plus, elles doivent encore faire face à d'autres difficultés financières ou encore infrastructurelles, je pense qu'on ne leur facilite vraiment pas la tâche.
Un commentaire? Elia Midi, vous êtes toujours avec nous?
Oui, je suis en train d'écouter, mais moi je vais parler rapidement du football féminin au Maroc. Alors le football féminin a connu un grand et un réel développement ces dernières années, grâce au soutien de la Fédération Royale Marocaine de Football, et surtout d'un grand homme, Monsieur le Président Fawzi El Khejaa, qui a mis tout pour développer le foot féminin, tout à la disposition des équipes nationales, des clubs et tout. Vous savez qu'au Maroc, on a un grand centre complexe Mohamed VI qui regroupe les équipes nationales, mais les filles, elles ont accès à n'importe quel moment, n'importe quelle concentration à ce grand complexe qui vraiment, elles ont tout ce qu'elles peuvent imaginer et espérer dedans, c'est-à-dire au niveau infrastructure au niveau financier, tous les niveaux. D'abord, côté fédération. En plus, nous, ici à au Maroc, on a pris quand même un grand pas en créant la Ligue nationale de football féminin en 2018-2019, avec bien sûr une présidente et un comité. Et bien sûr, on a signé un contrat d'objectif avec la fédération royale marocaine de football, la Ligue nationale, la direction technique et les ligues régionales. Les présidents des ligues régionaux étaient présents. Pourquoi? Pour créer, d'abord, on a créé le championnat national qui était déjà en première division et en deuxième division, mais on a créé un championnat des U17, des U15, c'est-à-dire des jeunes. On a vu que normalement, il est temps quand on démarre, il faut démarrer une fois pour toutes. La fédération a pris en charge les salaires des joueuses, de toutes les joueuses, des clubs, enfin de la première division et de la deuxième division. Elles ont 25 contrats pour chaque équipe, pour chaque club, 25 contrats qui sont payés par la fédération, y compris le staff technique, c'est-à-dire l'entraîneur, l'adjoint, presque 7 personnes du staff qui sont payées par la fédération.
Donc il y a assez d'initiatives pour dire à la jeune, aux aspirantes footballeuses qu'elles peuvent envisager une carrière professionnelle.
C'est un modèle qu'il faut suivre.
Oui, nous avons aussi, le Maroc a organisé plusieurs compétitions et tournois locaux et régionaux, football féminin. Ça, c'est des programmes qui ont été élaborés, qui ont été programmés ou qui ont été mis en place par la fédération et par la Ligue nationale de football féminin. Il y a même des programmes de formation qui sont mis en place pour les joueuses, pour les encadrantes, pour les arbitres femmes. Maintenant, on a des arbitres femmes internationales, on a beaucoup de jeunes qui ont arrêté de jouer et qui sont passés au domaine de l'entraînement. Tout ça, on le vit régulièrement, on le vit, ces derniers temps, on le vit au quotidien. Il y a même une grande sensibilisation pour la promotion de foot féminin au niveau des médias. Bon, maintenant, les radio, elles en parlent souvent. Il y a des émissions, il y a des interviews de pratiquement toute la semaine. Oui.
Merci. Il y a des efforts qui ont été réalisés. Il y a un auditeur qui est en ligne. On va rapidement le recevoir et on revient à vous. Dim Rangar, bonjour.
Bonjour, la VOA Afrique, bonjour à tous les auditeurs.
Vous êtes au Tchad, vous avez suivi l'intervention de notre invité du Maroc et de journaliste Yacouba Ouedraogo qui est avec moi au studio. Qu'est-ce que vous pensez de cette prestation des équipes africaines à ce mondial?
Moi, je crois que le football, que ce soit féminin ou masculin, rencontre beaucoup de difficultés. Et l'Afrique est là pour accompagner les autres, parce que vous savez, dans des compétitions internationales, que ce soit du côté des hommes ou des femmes, l'Afrique n'a jamais gagné une finale. Et donc, le problème se situe à plusieurs niveaux. Et comme j'ai mentionné dans mon commentaire, il faut d'abord investir. Mais c'est ce qui n'est pas le cas en Afrique. Ce n'est pas les moyens qui manquent, mais nos dirigeants, ce qui les préoccupe, c'est comment faire pour se maintenir ou investir dans l'achat des armes et autres.
On a compris. Ça, du Brangard, merci.
Merci.
Merci beaucoup du Brangard du Tchad qui pense que pour que les équipes africaines puissent aller loin dans les compétitions sur le plan mondial, il faut investir dans le football. Encore une fois, nous parlons de l'investissement à Yacouba.
Il n'y a pas de secret, hein, vous l'avez entendu tout à l'heure, là, vous avez entendu disons la vice-présidente de la Ligue marocaine de football féminin. Il n'y a pas d'autre moyen de faire développer le football puisque les talents sont là. Et si les talents sont là, il faut les accompagner. Et accompagner les talents, c'est déjà que la jeune fille qui est dans son quartier trouve un cadre dans lequel elle peut exprimer son talent. Et donc, exercer sa passion, c'est jouer au football. S'il faut jouer sur du gravillon ou bien sur de la terre nue et après se retrouver à Sydney dans un stade avec 75 000 spectateurs autour, je ne sais pas quel est l'effet moral que ça fait dans la tête de ces jeunes filles. Donc, il faut déjà avoir des infrastructures, que ce soit pour les hommes et pour les femmes, mais aussi il faut accompagner parce que ce football féminin ne va pas se développer. On entend le discours traditionnel, hein. Non, écoutez, c'est le football lui-même qui doit générer ses ressources parce que chez les hommes, il y a des sponsors et autres, donc c'est pourquoi on paye plus les hommes que les femmes. C'est un faux problème. Et donc je pense qu'il faut accompagner, si vous voulez que ces femmes-là jouent, continuent d'exercer leur passion et que nous puissions regarder cela aussi, c'est notre passion, eh bien il faut accompagner. Et accompagner suppose bien sûr de mettre les moyens, non seulement financiers, mais aussi il faut construire des stades, des terrains d'entraînement, et vous verrez que le visage du football féminin va changer sur le continent.
On laisse Eliamidi conclure ce débat. Un dernier commentaire
concernant ça pour revenir à la...
Alors on a très peu de temps maintenant, on n'a que 15-20 secondes pour clore ce débat, malheureusement.
D'accord. Bah, c'est oui, d'accord. Mais voilà, ce que je peux dire, c'est que nous, on a pensé au système sport-études pour les jeunes filles. C'est-à-dire on a un centre de formation pour les jeunes, des U15, U17, même maintenant des petites filles qui sont sur place, qui sont prises en charge par bien sûr la fédération et par quelques clubs. Par exemple, mon club, on a le système sport-études sur place. On a des filles, on est en train de préparer la relève parce qu'on ne peut pas s'arrêter aux seniors. Donc le système sport-études nous a beaucoup aidé à conserver ces filles sur place et s'entraîner.
C'est-à-dire qu'elles poursuivent leur passion, mais tout en poursuivant les études également.
Exactement, exactement. Voilà. À ce niveau-là, oui.
Je pense qu'on va s'arrêter sur ce dernier mot. À votre avis, le débat. Merci beaucoup, Bakia Eliamidi. Merci pour tous ces détails sur comment le Maroc prépare la relève dans le football féminin. Merci à vous, Yacouba Ouedraogo, pour votre contribution. Et merci à nos auditeurs qui nous ont laissé des messages audio et également qui ont participé en direct. Poursuivez, laissez-nous des messages et commentaires sur ce débat. ou sous d'autres termes d'actualité. À votre avis, le débat, c'est la fin pour aujourd'hui. Continuez de vivre l'actualité sur voaafrique.com. Manita Lamy, c'est ça pour le journal. Ce soir.